Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Bertie Bourdon, mais aussi Hélène Lefrançois, Margot Loridon, Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hue et mise en onde ce matin par Élise Le. Allez, on poursuit notre série consacrée aux confins de l'Europe. Après les Balkans, avant de parler des pays baltes, on va s'intéresser ce matin à l'Europe centrale et particulièrement la Pologne, alors qu'Emmanuel Macron y était en visite en début de semaine. Relation Varsovie-Paris, le miroir de l'union déchirée, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Je suis profondément convaincue que la visite du président français et la signature de ce programme de coopération constituent un véritable tournant dans nos relations. Je voudrais que notre coopération soit renforcée. C'est quelque chose qui est important non seulement pour nous, mais pour toute notre partie de l'Europe et je l'espère pour toute l'Union européenne parce que la présence de M. le président Macron en Europe centrale est un signal important pour toute cette l'Europe.
Vous l'avez dit, Monsieur le Président, nous avons devant nous beaucoup de projets, car nous avons beaucoup de défis. Et je souhaite que cette visite, nos échanges, marquent un véritable tournant dans le rôle qu'ensemble nous pouvons jouer pour l'Europe demain, pour relever le défi climatique et accompagner la Pologne qui a devant elle un défi que je ne sous-estime pas et l'Europe doit apporter toute la solidarité nécessaire à cet égard. Défi aussi de souveraineté, défi stratégique et force de nos valeurs qu'il nous faut défendre.
En visite officielle en début de semaine à Varsovie et Cracovie, Emmanuel Macron a cherché à normaliser les relations avec la Pologne. Et il y avait fort à faire. En effet, pics et polémiques se sont multipliés ces derniers mois avec le gouvernement dirigé par le parti ultraconservateur Droit et Justice. Derrière ces attaques et au-delà des relations franco-polonaises, c'est bien une ligne de fracture qui traverse l'ensemble de l'Europe dont il est question avec la montée en puissance de pouvoirs illibéraux pour qui les valeurs de liberté et de démocratie passent au second plan. Mais finalement, qu'est-ce qui les oppose aux autres États membres et en quoi sont-ils une menace pour l'avenir de l'Union européenne? État de droit, immigration, environnement, réforme de la justice, droit des minorités, défense, les sujets de discorde sont nombreux. Et le président français a dû se montrer particulièrement inventif pour espérer les dépasser. Mais y est-il parvenu? Quels étaient les enjeux de cette visite pour le futur des relations franco-polonaises? Comment renouer les liens entre Paris et Varsovie? Et comment redonner de l'envie d'Europe chez nos partenaires pour qui Bruxelles semble de plus en plus être un repoussoir? Et d'ailleurs, quelles sont les racines de cet euroscepticisme polonais? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Amélie Zima. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes enseignante en sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et rattachée au CERSEC de l'EHESS. À nos côtés également, Roman Krakowski. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes vous enseignant à l'Université de Genève et puis auteur de cet ouvrage, Le populisme en Europe centrale et orientale, un avertissement pour le monde, point d'interrogation, qui est paru chez Pfeyer. On avait eu l'occasion d'en parler il y a quelques mois, quelques semaines en tout cas, à ce même micro. Merci d'être avec nous également. Alors, on va commencer évidemment avec cette visite d'Emmanuel Macron en Pologne. D'abord, il faut rappeler qu'une visite avait déjà été annulée l'année dernière. À l'époque, il y avait eu un consensus pour dire que finalement, c'était absolument pas le bon moment. On était d'accord des deux côtés. Là, Emmanuel Macron finit par s'y rendre pour deux jours. L'objectif, c'est de conduire une grande opération de normalisation avec la Pologne. On a beaucoup parlé du côté, durant cette conférence de presse, de tournant, de renouveau. Est-ce qu'il faut comprendre que l'opération de normalisation a été un succès, Amélie Zima?
Alors, ça a été un succès assez mitigé, je dirais. Il y avait plusieurs objectifs dans cette visite. D'une part, dans le domaine de la défense, puisque c'est là vraiment que le bât blesse. On se rappelle que la coopération entre les deux pays, finalement, s'est beaucoup refroidie après le refus de la Pologne d'acheter les hélicoptères Caracal et de préférer des Black Hawks américains. Donc là, il y avait un enjeu de renouer la coopération de défense.
Amélie Zima, si on regarde de façon plus générale, il y avait une inquiétude du côté de la Pologne s'agissant du travail, j'allais dire, de normalisation des relations entre la France et la Russie, qui a été enclenché notamment en août dernier avec le président Macron qui a reçu Poutine au fort de Brégançon. Est-ce que sur ce point-là, qui était un point qui inquiétait énormément les Polonais, au-delà de la question des armes, est-ce qu'on a rassuré les Polonais?
Alors, le travail de réassurance des Polonais, il a été fait en amont. Il a été fait en amont, il a été fait par Jean-Yves Le Drian, qui a participé à un colloque à l'Université Charles en décembre. Il a été fait lors du sommet de l'OTAN déjà, où Macron a pointé la menace que pose les Iskander sur les pays baltes et la Pologne. Et il a été en partie accompli aussi durant cette visite, puisque le président Macron a affirmé qu'il soutenait la Pologne, qu'il défendait la Pologne face aux menaces russes et face aussi au révisionnisme russe, notamment sur la question de la Seconde Guerre mondiale.
Il l'a dit ça notamment hier à l'université de Cracovie dans un discours assez fort. Roman Krakowski, comment est-ce que vous voyez cette opération séduction, peut-être pas, mais en tout cas opération normalisation, le bilan général?
Alors, je dirais la chose suivante, c'est que le terme a été prononcé dans l'extrait que vous venez de nous faire passer, le tournant. Même si le bilan de cette visite est assez mitigé, il y a quand même un grand changement par le passé. Vous l'avez rappelé vous-même. Hein. On était dans les rapports assez émotionnels, avec des malentendus des deux côtés, côté français comme du côté polonais. L'entreprise ou le choix qui a été fait par Macron, c'était d'apaisement, une volonté de coopération et une approche beaucoup plus pragmatique. Donc il a soigneusement évité certains sujets qui fâchent. La question migratoire n'a quasiment pas été abordée. Le sujet de la réécriture de l'histoire par la Russie a été abordé uniquement en marge.
On a un peu parlé de la question du climat. Mm-hmm. Parce qu'au fond, la question migratoire, il y a eu différents, mais sur le fond de la question, il n'y a pas tant de différents que ça en réalité entre Paris et Varsovie. Sur la question du climat, il y en avait une.
Sur la question,
on l'a évoqué.
Oui, bien sûr, sur la question du climat, il y avait des différends. Et là aussi, il n'y avait pas énormément d'avancées, à mon avis. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais la France s'est contentée d'affirmer l'objectif d'accompagner la Pologne dans la transition climatique. La Pologne a joué un peu sur la durée et probablement a obtenu le soutien de Français lors des négociations de l'accord climat 2050.
On reviendra sur la question du climat, mais tout à l'heure, Amélie Zima faisait référence à cette affaire de l'annulation des contrats de vente d'hélicoptères. Est-ce qu'il vous semble, Roman Krakowski, que c'est un moment important dans l'escalade des tensions, si je puis dire, entre Paris et Varsovie, où au fond, il faut regarder les choses ailleurs? J'ai évoqué tout à l'heure dans mon introduction l'arrivée dans le paysage politique du parti Droit et Justice. Alors, il faut rappeler pour les auditeurs, il a été créé au début des années 2000, en 2001, mais c'est vrai qu'il y a eu une montée en puissance qui est un peu plus récente, puisqu'ils ont eu la majorité à la Diète, le Parlement, entre 2005 et 2007, et puis surtout à partir de 2015. Est-ce que on peut vraiment établir une corrélation entre la dégradation des relations avec la Pologne, avec justement l'arrivée au pouvoir du PiS, ou est-ce qu'il faut peut-être un peu détacher les choses?
La Pologne a toujours été plus proche des États-Unis quand on parle des questions de la défense que de l'Union européenne. Pour des questions très pragmatiques, c'est que la politique de défense européenne est aujourd'hui quasiment inexistante. Donc, lorsque vous êtes un voisin presque immédiat de la Russie, on peut comprendre certaines inquiétudes de la part des Polonais. Là aussi, Emmanuel Macron a essayé de relancer un peu le partenariat franco-polonais. La Pologne consacre 2% du PIB au budget défense, donc ça pourrait être un partenaire important pour la construction de la politique de défense européenne, y compris, donc vous avez évoqué les contrats pour l'armement ou pour les hélicoptères, mais il n'y a pas que ça. Ce qui est intéressant, c'est là aussi que Macron a essayé d'apaiser un peu les choses. Il est parfaitement conscient de l'orientation pro-atlantiste, pro-OTAN de la Pologne, et donc il essayait de vendre les politiques de défense européenne, non pas en tant comme une forme de concurrence à l'OTAN, mais un complément. Donc là aussi, on est dans une politique de pragmatisme.
Vous parlez justement d'atlantisme. On va y venir avec vous, Amélie Zimmer. Mais d'abord, je vous propose d'écouter, justement, pour bien avoir en tête cet atlantisme polonais, je vous propose d'écouter un extrait d'une déclaration qui avait été faite par le ministre des Affaires étrangères polonais alors qu'il recevait, c'était en février, Mike Pompeo à Varsovie.
Chcemy razem złożyć wizytę.
Avec le secrétaire d'État Pompeo, nous allons ensemble visiter la base de l'OTAN à Auschwitz et nous allons rendre visite aux soldats américains déployés là-bas. Nous allons également continuer nos échanges durant le sommet dont le but est de promouvoir la paix et la sécurité au Moyen-Orient. Mais cette rencontre nous montre avant tout que nos buts concernant les questions internationales sont communs lorsqu'il s'agit par-dessus tout des questions de sécurité. Même avant que nous rejoignions la base de l'OTAN demain, je souhaiterais vous remercier, Monsieur le Secrétaire d'État, pour les services que les soldats américains rendent sur le sol polonais. Grâce à eux, nous nous sentons en sécurité dans notre pays.
Dzięki tej służbie czujemy się w naszym kraju bezpiecznie.
Voilà, je pense que le message est limpide, Amélie Zima. C'est vrai que cet atlantisme polonais, il est particulièrement fort, mais d'ailleurs, il est fort dans l'ensemble de l'Europe centrale. Il est fort aussi en Hongrie, il est fort en République tchèque. D'ailleurs, la récente, pour ce qui est de la Pologne, la récente annonce de Varsovie de l'achat de 32 chasseurs F-35 sont une nouvelle illustration précisément de cet atlantisme, puisque ça va accroître encore l'interopérabilité, c'est comme ça qu'on dit, avec les États-Unis et les alliés de l'OTAN. Mais finalement, pourquoi la Pologne est aussi atlantiste? Est-ce que c'est seulement pour des raisons militaires, au fond, les États-Unis sont les seuls à même de garantir notre sécurité, donc nous sommes atlantistes? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons, peut-être moins explicites, si c'est le cas, lesquelles? Et puis on verra si l'Europe peut se placer enfin en véritable garant de cette sécurité polonaise face à cette menace russe, en tout cas telle qu'elle est ressentie depuis Varsovie. Amélie Zima.
Le président Macron a essayé de présenter l'Europe comme un possible garant, un possible futur garant de la sécurité des pays d'Europe centrale. Et il a dit qu'il attendait ce jour avec impatience, où l'Europe centrale se sentirait défendue par l'Europe.
On n'y est pas.
L'atlantisme polonais, il a eu des sources anciennes, en fait. Il a été construit au début des années 90, quand l'Allemagne du chancelier Kohl hésitait à reconnaître la ligne d'Ornans. Et en fait, il y a eu des pressions de Washington sur le gouvernement Kohl. Et à ce moment-là, les Polonais se sont dit, mais en fait, notre sécurité peut être assurée par les États-Unis. Il y a aussi au moment de la guerre en ex-Yougoslavie, où c'est l'OTAN qui est intervenue. Et donc là aussi, ça a renforcé ce facteur atlantiste. Après, il y a eu des moments plus européen, notamment sous le gouvernement libéral PO de Donald Tusk, entre 2007 et 2015, où l'objectif de la présidence polonaise de l'UE était justement le renforcement de la politique de défense et de sécurité commune, mais ça a avorté. Ça a avorté pour des raisons internes, les Britanniques n'étaient pas favorables, puis ça a avorté aussi pour des raisons conjoncturelles, l'annexion de la Crimée, le déclenchement de la guerre dans le Donbass, et là, Varsovie s'est de nouveau retournée vers l'OTAN et de nouveau retournée vers Washington. Et au-delà, vous parliez des F-35, au-delà des F-35, il y a un point qu'il faut noter, c'est qu'en fait, en juin 2019, Varsovie a signé un traité bilatéral de défense avec les États-Unis. Et donc, achat de matériel, au-delà des F-35, renforcer la présence américaine sur le sol polonais, réaliser des exercices communs. Donc, on voit que le gouvernement PiS cultive, renforce même cet atlantisme pour des raisons conjoncturelles.
Même si c'est pas une nouveauté, rappelons quand même que la Pologne, avant même d'intégrer l'Union européenne, avait intégré l'OTAN en 1999.
Oui, tout à fait. Elle a intégré l'OTAN en 99, l'Union européenne en 2004. L'OTAN s'est déclaré plutôt favorable à l'élargissement que l'Union européenne. Les États membres de l'OTAN étaient plus favorables que ceux de l'Union européenne, qui se recoupent pas tout à fait. Et c'était vu vraiment comme le moyen d'assurer la sécurité, de pas être dans une zone grise coincée entre l'Allemagne et la Russie. En fait.
Roman Krakowski, jusqu'où est-ce que cet atlantisme polonais peut expliquer cette difficulté de la Pologne à aller vers plus d'intégration, et même jusqu'où est-ce qu'on peut le relier à l'euroscepticisme polonais, qui est une réalité?
Je pense que là encore, on pourrait remonter à très loin, où les États-Unis, déjà durant la guerre froide, soutenaient la Pologne contre la Russie, et l'Union européenne s'est montrée dans les années 90 plutôt en seconde position. C'est plutôt au début, c'est les États-Unis qui menaient un peu la danse, et l'OTAN pour l'intégration de cet espace dans les structures européennes, pour la transition, pour l'accompagnement vers la démocratie. Et l'Union européenne a toujours manqué de moyens. Lorsque vous ajoutez à cela les invectives ou une position un peu condescendante que pouvaient avoir certains leaders européens vis-à-vis de la Pologne.
Et en particulier d'ailleurs de leaders français.
Parce que
Emmanuel Macron.
Au pluriel.
Oui, au pluriel. Parce qu'on voit Emmanuel Macron comme quelqu'un, en tout cas depuis la Pologne, comme quelqu'un d'arrogant, qui fait la morale à la Pologne. Souvenons-nous qu'il y a quelques années, un certain Jacques Chirac, par exemple, avait expliqué aux Polonais qu'ils avaient encore manqué
une occasion de se taire
au moment où les États-Unis décidaient d'envahir l'Irak.
Et aujourd'hui, toutes les critiques que peut formuler l'Union européenne à l'égard de la Pologne concernant l'état de droit, concernant les réformes du système judiciaire, etc., peuvent rappeler ces mauvais souvenirs du passé.
Alors justement, comment répondre à ça, Roman Krakowski? Il a été question dans la visite d'Emmanuel Macron de ce fameux triangle de Weimar. Il faut se souvenir qu'en août 1991, à l'initiative du ministre des Affaires étrangères allemand, ses homologues polonais et français l'avaient retrouvé lors d'un grand sommet à Weimar, donc ville allemande, où fut fondé évidemment le premier régime démocratique allemand, la République de Weimar, qui finira par sombrer sous les coups de boutoir du nazisme. Ce format donc à trois, Allemagne, France, Pologne, avait alors été baptisé ce triangle de Weimar, et il a expliqué, Emmanuel Macron, qu'il fallait relancer ce dispositif. Il a d'ailleurs dit qu'il y aurait un prochain sommet très bientôt dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il vous semble que c'est une bonne idée? Et est-ce que finalement, pour dépasser cette difficulté franco-polonaise, mais aussi cette difficulté à relancer l'Europe avec ce différent qu'il existe entre l'Europe occidentale, disons-le comme ça, et l'Europe orientale, est-ce que vous pensez que l'Allemagne sera l'acteur clé qui est au centre de ce dispositif Weimar?
L'Allemagne est déjà l'acteur clé sur le dans cet espace. Vous avez rappelé que le triangle de Weimar a été fondé en 91 à Weimar, donc République de Weimar, le début de la démocratie allemande au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'est aussi une ville de Goethe, de Schiller, de tous ces humanistes européens. C'est une ville qui est tout près de Buchenwald. Donc c'est ce cercle qui a été créé dans les années 90. Il servait à renforcer la coopération entre les trois pays autour des valeurs communes européennes. Et donc, lorsque Pise est arrivé au pouvoir dans les années 2000, ce triangle et toutes les rencontres un peu formelles ou informelles qui l'accompagnent étaient un peu abandonnées. Et aujourd'hui, on revient à la charge pour la raison très simple. Il y a un acteur qu'on n'a pas évoqué, c'est la Grande-Bretagne qui vient de quitter l'Union européenne, et ça repositionne complètement les rapports de force entre la Pologne, la France et l'Allemagne.
En quoi?
À E3, il représente à peu près 50% de la population de l'Union, près de 40% du PIB. C'est ça la principale raison de la visite de Macron en Pologne, besoin de trouver un partenaire et construire, donc utiliser ce triangle de Weimar pour rattacher la réconciliation franco-polonaise à la réconciliation polono-allemande.
Oui, c'est évidemment un des effets du Brexit qu'on n'attendait pas forcément, c'est ce déplacement du centre de gravité, déplacement démographique et économique vers le centre de l'Europe et de fait vers la Pologne. Amélie Zima.
Juste pour revenir sur le triangle de Weimar, rajouter en fait la relance concrète du triangle de Weimar, c'est justement cette association de la Pologne à ce projet militaire de construction commune d'un char d'assaut. Ça a été présenté comme la première relation concrète et pratique pour réveiller en fait un triangle qui est en sommeil depuis le début des années 2000 en fait. Il n'y a pas eu de réalisation concrète vraiment ou de rencontres régulières depuis le début des années 2000. Et pour revenir sur la question un peu de l'euroscepticisme que vous avez lié à l'atlantisme, en fait, je pense qu'il faut distinguer le positionnement des dirigeants et le positionnement de la population, puisqu'en fait, les enquêtes d'opinion montrent que la population polonaise, en fait, elle est très favorable à l'Union européenne, et même depuis que le PiS est au pouvoir. Hein, on a des enquêtes qui montrent qu'entre 80-85% de la population est favorable à l'Union européenne. Donc, il faudrait un peu nuancer cette question de l'euroscepticisme. Et puis...
Ça tombe bien, j'ai prévu d'en reparler.
Voilà. Et concernant justement l'Union européenne, ce qui a été dit lors de cette visite du président Macron, et proposé par le président polonais Duda, c'est en fait d'essayer de faire des réformes pour empêcher que d'autres États ne sortent de l'Union, mais de faire des réformes qui préservent la souveraineté des États.
Mais Roman Krakowski, vous parliez de valeurs communes à propos de la France, l'Allemagne et de la Pologne. Mais est-ce qu'on a encore des valeurs communes avec la Pologne? Du côté de la Pologne, Emmanuel Macron, il incarne le progressisme social et sociétal, alors que du côté de la Pologne, on se considère comme les véritables gardiens de la démocratie chrétienne. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses. On se dit, même du côté de l'Allemagne, finalement, on ne sait plus ce que c'est la vraie démocratie chrétienne. Ce sont nous les vrais garants de tout cela, avec nos amis hongrois notamment. Est-ce que réellement, on partage encore des valeurs communes?
Je pense que c'est ça la véritable question quand on parle du rattachement des Polonais à l'Union européenne ou à l'Europe. Hier, il y avait une enquête qui est sortie en Pologne sur cette question et les résultats sont assez intéressants. 89% de la population est rattachée à l'Europe. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'Europe? Est-ce que c'est le triangle de Weimar et une volonté de relancer la machine économique entre les trois pays, France, Pologne et l'Allemagne? Est-ce que c'est un certain rattachement à l'idée de l'état de droit? Est-ce que c'est ça, nos valeurs européennes?
Et là, et à votre avis, c'est quoi?
Mais je pense que c'est ça, c'est le rattachement à un certain socle de valeurs, qui sont les valeurs humanistes, les valeurs de l'égalité devant la loi.
Mais qui ne sont pas les valeurs défendues par le PiS, PiS qui pourtant gagne des élections. Si on regarde par exemple les dernières élections européennes, le PiS est arrivé en tête et assez largement. Pourtant le PiS ne défend pas exactement les valeurs que vous venez de décrire. Alors comment est-ce qu'on peut être à la fois pour l'Europe et pour les valeurs que vous venez de décrire, en même temps pour le PiS et voter majoritairement pour ce parti qui ne les défend pas, ces valeurs?
Je pense qu'il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est la transition dans les années 90 qui a eu des effets extrêmement lourds sur le plan social pour les populations. Et deuxième élément, c'est la crise démographique qui concerne la Pologne, même si la Pologne a rejoint cette pente un peu plus tard. Mais les prévisions des Nations Unies sont concordantes sur l'ensemble des pays de la région. D'ici 2050, l'ensemble des pays devraient perdre entre 15 et 20% de la population en fonction des pays. Il y a des pays qui sont mieux lotis que d'autres. Dans cette situation de menace pour l'existence de la communauté nationale, lorsque la communauté perd 20% de sa population, c'est qu'il y a une question de survie qui est posée. La solution des démocraties libérales, c'est de renverser un peu la hiérarchie des valeurs et de mettre en avant l'intérêt de la nation. Donc les démocraties libérales ne nient pas les valeurs du libéralisme, sauf que l'intérêt national prime sur l'état de droit, donc réforme de la justice, prime sur la liberté d'expression, donc les changements dans le paysage médiatique. Et on arrive sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, la réécriture de l'histoire, parce que lorsque vous avez le contrôle des médias et de la parole dans l'espace public, vous pouvez introduire des faits alternatifs ou une certaine lecture du passé national.
Amélie Zima, comment est-ce que vous voyez les choses sur ces divergences en termes de valeurs, même si j'entends la démonstration de Roman Krakowski à propos du fait que pour les démocraties dites illibérales de l'Europe centrale, on ne rejette pas complètement les valeurs de liberté et le libéralisme, notamment le libéralisme économique, bien au contraire en la matière, mais qu'on le met au second plan derrière l'intérêt national. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a quand même des divergences réelles et que le progressisme sociétal de Macron n'est pas le conservatisme chrétien du PiS ou d'Orban. Et que ça pose un problème dans la construction européenne.
Tout à fait. Dans son discours à l'université Jagellon de Cracovie, en fait, Emmanuel Macron a pointé ce hiatus et il a dit que l'Union européenne, en fait, ne pouvait pas être un supermarché où on prend ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la libre circulation des personnes, les fonds structurels, ce genre de choses, et qu'on laisse de côté les valeurs, l'état de droit, parce que finalement, ça ne convient pas. Là, ça, il a pointé ça en disant que c'était finalement une grande erreur. La Pologne, je dirais aussi, ce qu'il faut prendre en compte, est un pays qui est extrêmement clivé aussi. C'est-à-dire que vous avez le PiS et son électorat qui fait preuve d'un certain euroscepticisme, mais de toute façon, savoir si les gens ont vraiment voté pour le PiS pour des questions européennes, je doute fortement, puisque c'est pas l'enjeu majeur. L'enjeu majeur, c'était plutôt les questions sociales, toutes les promesses sociales qu'a fait le PiS, en fait.
J'entends bien, mais pardon, si je regarde les élections de mai dernier, le PiS sort vainqueur avec 45% des voix, en augmentation de 6 points par rapport à 2014, et l'opposition se rassemble dans un bloc appelé Coalition européenne, et fait 7 points de moins, 38%. C'est quand même un message
assez
clair.
On est quand même dans
ce qui ressemble à de l'euroscepticisme.
La dynamique électorale du PiS, elle n'est pas linéaire parce que le PiS a perdu, par exemple, ses élections territoriales. Il n'a gagné aucune grande ville. Les régions de l'Ouest sont à l'opposition. Là, il y a eu les élections législatives cet automne. Le PiS a perdu le Sénat. Donc, il n'est pas dans une dynamique à la Viktor Orban.
Oui, mais à l'intérieur du pays. Mais là, le message des Polonais, il est quand même assez clair sur une forme de rejet de l'Europe. Quand le PiS l'emporte avec 7 points de plus, avec un bloc en face qui s'appelle Coalition Européenne.
Il l'emporte avec 45% des voix, ce qui fait que ça montre en fait que le pays est extrêmement clivé sur ces questions-là. Le pays est clivé sur les questions d'environnement, le pays est clivé sur les questions européennes, mais sur les questions sociétales aussi. Par exemple, tout ce qui est minorité LGBTQ. Voilà. Donc, en fait, ce que ça montre surtout, c'est que vous avez vraiment un clivage profond dans le pays sur les questions de l'avortement aussi, ce genre de choses.
Alors, Roman Krakowski, sur quoi justement se fonde ce clivage? Vous avez parlé peut-être de rupture générationnelle. Est-ce qu'il y a des clivages sociologiques? Est-ce qu'il y a des clivages géographiques? Sur quoi se fondent ces clivages?
En partie, c'est un clivage géographique, mais en partie seulement. On a évoqué les villes qui sont tombées plus du côté de l'opposition dans les dernières élections. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a une question, vraiment, et j'appuie sur ce que vient de dire Amélie Zima. C'est pas les enjeux européens, en fait, qui sont au cœur des débats. C'est vraiment les enjeux sociaux. Et le gouvernement PiS a l'économie, la croissance économique, une extrême dynamique économique pour lui, ce qui lui permet de mettre en place des des grandes réformes, des réformes qui permettent une redistribution des ressources vers les régions moins développées, vers les classes, vers les catégories socioprofessionnelles moins favorisées. Et c'est ça la principale raison du succès de PiS. C'est pas l'euroscepticisme.
C'est sa politique sociale.
C'est la croissance économique qui joue pour lui, qui devrait ralentir cette année. Donc on va voir, peut-être on aura un peu plus de difficultés.
Alors on va écouter quand même une voix eurosceptique. C'est un homme qui est dans la région de Bialpodalska en Pologne. Il s'appelle Sigmund.
L'UE nous aide beaucoup, mais maintenant ils nous font constamment des reproches. Ils disent qu'on ne respecte pas la loi, ils nous comparent même à la Biélorussie. Et le plus grand coupable de toutes ces attaques insensées, c'est ce Franz Timmermans.
Voilà, Sigmund qui est un retraité électeur du PiS, vous l'aurez compris. Amélie Zima, Roman Krakowski faisait référence à l'instant au succès électoral du PiS. Il parlait de cette politique sociale redistributive et il évoquait aussi les succès économiques du PiS. Jusqu'où est-ce qu'on peut corréler ce succès économique de la Pologne à l'intégration à l'Union européenne?
On peut le corréler tout à fait parce que la Pologne est le principal bénéficiaire des fonds structurels européens qui avaient été négociés par le précédent gouvernement libéral de Donald Tusk. Donc il y a eu un afflux vraiment d'argent européen qui a permis de relancer la mécanique économique polonaise. Ça tient aussi à d'autres facteurs, à des facteurs internes. Par exemple, la Pologne n'a pas connu la crise économique de 2008. Même pendant au plus haut de la crise, elle était à 1,7-1,8% de croissance parce qu'en fait, les banques n'avaient pas autant investi dans des fonds toxiques. Donc il n'y a pas eu cet effet-là. Et ça tient aussi, si on veut parler, une sorte de dumping social finalement, puisque la manœuvre polonaise eh bien, est moins chère que la manœuvre occidentale. Donc vous avez beaucoup d'entreprises qui vont s'installer en Pologne. Par exemple, pour les entreprises françaises, on estime qu'il y a plus de 1000 entreprises françaises qui se sont installées là-bas pour presque 200 000 emplois induits. Donc c'est un pays aussi qui attire les investisseurs étrangers, Pays-Bas, Allemagne, Luxembourg pour les premiers, la France venant quatrième.
200 000 emplois créés par des entreprises françaises en Pologne?
C'est les chiffres qui sont donnés. C'est les chiffres qui sont donnés en fait entre 180 000 et 200 000 par les autorités polonaises.
C'est important si on regarde les autres partenaires européen de la Pologne, ou c'est à peu près le même?
C'est assez important, effectivement. La France est à peu près le quatrième partenaire économique de la Pologne, mais c'est extrêmement concentré. C'est-à-dire que les entreprises françaises et ses emplois sont principalement dans la région de la capitale, la région de la Mazovie, pour environ 80%. Donc, il n'y a pas vraiment d'essaimage dans les autres régions. Et donc, les investisseurs, et notamment les investisseurs français, sont largement présents, ce qui contribue à la bonne santé aussi économique du pays. Si on regardait les entreprises françaises présentes, vous avez des entreprises du BTP, vous avez l'hôtellerie, vous avez la télécommunication, donc énormément d'entreprises qui contribuent à la vitalité économique du pays.
Ça veut dire qu'en réalité, on dit depuis des mois que les relations entre la Pologne et la France sont mauvaises, parce qu'évidemment, nous, on écoute les déclarations des uns et des autres, mais quand on gratte un petit peu et qu'on regarde au-delà de ça, en fait, la relation franco-polonaise est excellente, en tout cas du point de vue économique et commercial. Roman Krakowski.
Oui, c'est peut-être une... comment dire, une forme de... disparité entre le langage diplomatique et puis la réalité économique. On l'a rappelé, les grandes boîtes de distribution, les grandes entreprises sont installées en Pologne et ce dont ils auraient peut-être besoin, c'est un peu de soutien diplomatique dans le sillage de la visite de Macron. Il y a EDF qui serait intéressé par les projets de construction de centrales nucléaires avec le changement climatique. La SNCF qui aimerait bien obtenir le contrat pour le TGV qui relie l'aéroport, le nouvel aéroport à construire à Varsovie.
Donc il y a encore de belles perspectives.
Il y a encore des perspectives et je pense que c'est ces grandes entreprises qui espèrent que la normalisation des relations entre les deux pays contribuera à faire avancer les entreprises françaises dans la région.
Alors justement sur la question nucléaire, ça va permettre de glisser doucement vers la question du climat, parce que on sait que du côté de la Pologne, on utilise énormément de charbon et que c'est un problème évidemment pour ce qui est la question des objectifs de réduction de gaz à émissions à effet de serre. Or du côté de la France, précisément, on a des compétences intéressantes en termes d'énergie nucléaire qui permettraient peut-être de répondre à ce défi énergétique. Est-ce que Amélie Zima, ça veut dire qu'il pourrait y avoir dans les mois qui viennent, pourquoi pas, l'annonce de la mise en place de centrales nucléaires, une ou plusieurs d'ailleurs, du côté de la Pologne. Ça permettrait de faire une pierre deux coups et de la coopération économique et en même temps de répondre aux objectifs environnementaux qui, pour le moment, ne semblent pas être une priorité de la Pologne, mais peut-être qu'on lit mal les choses.
Alors effectivement, c'est un sujet qui a été abordé lors de cette visite. Le président Macron disant qu'il faut aider la Pologne dans cette transition énergétique parce qu'elle a un passé qu'elle n'a pas choisi, qui est lié au charbon, et donc il faut l'aider. Concernant le nucléaire, les Français ne sont pas nécessairement en bonne position. C'est un dossier sur lequel travaille effectivement le ministère de l'Économie, mais les Polonais sont assez sceptiques, et ils sont assez sceptiques face au nucléaire français en raison de l'EPR de Flamanville, et des retards dans la mise en marche de l'EPR de Flamanville qui ne plaident pas nécessairement en faveur des compétences françaises en ce domaine-là. Donc pour le nucléaire, la Pologne regarde aussi du côté des États-Unis et de la Corée.
Oui, j'allais vous dire, ils vont quand même pas acheter du nucléaire russe.
Non.
On n'y est pas. Roman Krakowski.
Oui, je pense que ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que aujourd'hui 80% de l'énergie en Pologne vient du charbon, contre 3,7% en France. Donc on est sur une autre planète complètement. Et faire une transition énergétique va être beaucoup plus difficile et long, compte tenu aussi du niveau de vie. En Pologne, le salaire minimum est de 500 euros. C'est 1500 en France. Donc on n'est pas du tout dans le même contexte. D'où aussi les soutiens nécessaires de la France. Pour accompagner la transition énergétique de la Pologne. Et c'est là où peut-être sur ce point-là les deux partenaires peuvent retrouver un terrain d'entente. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe actuellement en Europe centrale et orientale, pas seulement en Pologne mais aussi dans d'autres pays de la région. On anticipe déjà donc ces transitions énergétiques, les mesures d'accompagnement que l'Union va mettre en place pour transformer les anciennes centrales au charbon vers les centrales de type un peu plus nouveau, modernisé, etc. Il y a un certain nombre d'oligarques de la région qui rachètent ces vieilles centrales au charbon en perte de vitesse et anticipent déjà les fonds structurels de l'Union européenne qui vont recevoir dans les années à venir pour faire la transition énergétique. Et je vous donne juste un exemple.
Oui, ça éclaire. Non, oui. Finissez. Puis. Parce que je me posais la question hier dans son discours à l'université de Cracovie. Emmanuel Macron a expliqué qu'il ne fallait pas se leurrer, que les crédits qui allaient être dégagés par l'Union européenne pour faire de la transition énergétique étaient vraiment voués à faire de la transition énergétique et pas autre chose. En fait, c'est de ça dont il parlait.
Je pense que c'était une allusion à ça. Je vous donne un exemple. Donc, on connaît en France l'oligarque d'origine tchèque Daniel Kaczynski qui a acheté 6 centrales au charbon en Allemagne. Et d'après ses calculs, il devrait recevoir 1,75 milliard d'euros en dédommagement pour la transition énergétique. Pour les centrales qui, de toute façon, vont fermer. Il les a achetées alors que, dans les années à venir, ces centrales vont fermer. Donc, c'est une arnaque pour les contribuables européens. Et malheureusement, il n'y a pas de mesures, il n'y a pas de contre-mesures qui sont prévues de la part de l'Union européenne.
D'accord, donc en fait, ce que disait hier Emmanuel Macron, c'était un message à ses oligarques, peut-être en particulier à Kretinsky, pour lui dire non, l'Europe ne va pas vous remplir les poches avec vos rachats d'usines. Amélie Zima.
Je voulais juste rajouter un point, c'est qu'il ne faut pas uniquement regarder ce qui se passe au niveau des gouvernements, mais regarder ce qui se passe aussi entre les villes. Et un accord qui a été signé entre Paris et Varsovie, entre les deux maires, justement, de coopération, et notamment pour lutter contre le réchauffement climatique, pour lutter contre le smog, qui est un vrai problème dans certaines villes polonaises, qui sont parmi les plus polluées de l'Union européenne. Donc il y a aussi là des synergies qui peuvent se faire à ce niveau-là.
Alors, il y a la relation évidemment entre Paris et Varsovie, mais il y a aussi les relations avec la Pologne à l'intérieur des institutions européennes. Je voudrais qu'on en parle.
La Pologne ne peut pas occuper sa place parmi les grands pays d'Europe dans le processus décisionnel de l'Union européenne, parce qu'ils sont en train de prendre la voie du nationalisme et de l'égoïsme.
Si un pays avec les passés de Hitler nous dit nationaliste, c'est du mauvais goût. Si un pays du régime Vichy nous dit nationaliste, c'est du mauvais goût. Nous étions le seul pays, la Pologne, de résister et ne pas collaborer avec le régime nazi.
Voilà, on entendait d'abord Manfred Weber, le leader du Parti populaire européen, c'était en mars dernier, et puis ensuite la tête de liste polonaise du PiS aux élections européennes. Roman Krakowski, comment l'Europe doit-elle se comporter avec le pouvoir polonais et avec ces régimes, disons, illibéraux d'Europe centrale? Est-ce qu'il faut faire preuve d'une certaine indulgence et se dire que finalement, cette fièvre ultra-conservatrice, pour pas dire nationaliste, finira par passer? Est-ce qu'il faut faire preuve d'une certaine fermeté à leur égard pour bien montrer que nous sommes là pour défendre les valeurs de l'Europe et l'intérêt de l'Union européenne? Comment il faut se comporter, Roman Krakowski?
Je dirais qu'il faudrait rendre le projet européen attractif, c'est-à-dire montrer aux populations polonaises que l'amélioration de leur bien-être passe par l'adhésion au projet européen et à tout ce qu'il en découle, y compris le rattachement aux valeurs de l'état de droit, respect des libertés, etc. Or, le discours des acteurs européens par rapport à l'état de droit, il est axé sur la critique des dysfonctionnements, sur la critique des réformes du système judiciaire, etc. Alors que il faudrait réfléchir sur comment rendre ce projet attractif, comment le rendre préférable à ce que fait aujourd'hui PiS avec ses plans de redistribution sociale et le modèle de croissance en partie financé aussi par les aides européennes, comme on vient de le dire.
Amélie Zima, vous êtes d'accord? Parce qu'en même temps, on critique, mais on ne prend pas réellement de décision définitive, de sanctions problématiques pour la Pologne en réalité. On critique, oui, mais ça s'arrête là.
Alors, en fait, il y a une procédure qui est engagée contre la Pologne. Hein, l'article 7 du traité de l'Union a été activé, tout ça. Donc, il y a vraiment la Commission a commencé à agir vis-à-vis de la Pologne. Mais moi, ce que je voudrais souligner, en fait, dans cette histoire-là, c'est plutôt la partialité des institutions européennes, une certaine arbitraire. Parce que Viktor Orban, il a mené beaucoup de réformes anti-libérales, antidémocratiques, dans l'indifférence la plus totale. La Pologne a commencé à mettre
dans l'indifférence la plus totale, vous êtes un peu dur.
Des institutions européennes, en tout cas. Et du Parti populaire européen, tandis que la Pologne a commencé à mettre en
place. C'est vrai, le parti a menacé d'expulser les eurodéputés du Fidesz et que ça s'est pas passé.
Voilà.
Ça, pas
et il y a aucune et finalement Viktor Orban qui est au pouvoir depuis le début des années 2010, la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne n'a pas pris encore autant de mesures à l'encontre de la Pologne. Et là, je pense que ça pose un problème aussi l'Union européenne. Comme gardienne des traités, comme gardienne des normes, comme gardienne de ces normes libérales et démocratiques, parce que pourquoi finalement on mettrait en place des procédures contre un pays mais pas contre les autres? Donc là, dans la façon dont l'Union européenne traite de ces démocraties, il y a une forme de partialité d'arbitraire qui est quand même assez problématique et partialité qu'on retrouve aussi au Parlement européen avec le comportement du PPE vis-à-vis du Fidesz hongrois.
Régime à deux vitesses, Roman Krakowski, vous êtes d'accord?
Oui, en partie, mais je vous donne un exemple concret. Si aujourd'hui la Pologne anticipe le déclin démographique, pourquoi ne pas accompagner en fait la libre circulation des personnes et le fait qu'une partie des Polonais se déplace à l'étranger pour construire leur vie? Pourquoi ne pas accompagner la définition des critères d'attribution des aides structurelles aussi par des facteurs humains? Le facteur de chômage, l'indemnisation des pays où les cerveaux ont été formés, mais qui quittent ces pays et s'installent dans les pays voisins ou ailleurs. En gros, réfléchir sur l'élargissement des critères des aides structurelles européennes qui aujourd'hui en fait sont des critères essentiellement économiques et les élargir à des critères humains. Démographiques ou autres, parce que c'est sur ces points-là que les pays de la région ont le plus d'inquiétude dans l'avenir.
Alors, on a parlé de la dimension purement politique, économique, militaire. Il y a un volet qu'on n'a pas du tout abordé, sur lequel je voudrais vous entendre un tout petit peu, c'est la vision, le volet culturel. Mais d'abord, je vous propose d'écouter une voix. On est en 1982, c'est une archive, c'est Michel Foucault.
J'ai vécu plus d'un an en Pologne il y a 20 ans et je me souviens très bien qu'on évoquait souvent cette espèce de grand contentieux historique qui fait que la Pologne, qui doit jusqu'à un certain point son existence à certains traités internationaux comme le traité de Versailles, doit aussi sa disparition à l'abandon des pays occidentaux. Et les Polonais nous en ont souvent gardé une certaine rancune. En tout cas, je sais que maintenant, les Polonais, certains Polonais en tout cas, refusent d'avoir avec les autorités françaises en Pologne, ambassades, institutions culturelles, etc., des rapports quelconques à cause de ce qui s'est passé en France, d'un certain nombre de choix politiques, et en particulier de la continuation, en dépit de la situation polonaise, des accords, tractations économiques et diplomatiques, comme par exemple le traité concernant le gazoduc. Et à cause de cela, ils ne veulent plus avoir de rapport avec les Français.
Voilà, Michel Foucault, en octobre 1982, après une visite en Pologne, alors que le syndicat Solidarité venait d'être interdit par le gouvernement. Michel Foucault, qui avait séjourné à Varsovie dans les années 50, c'est même là qu'il avait terminé son histoire de la folie avant d'être forcé de quitter le pays. À l'époque, Roman Krakowski, Foucault était chargé de l'ouverture du centre de civilisation française et d'études francophones, censé compenser la fermeture de l'Institut français de Varsovie quelques années plus tôt. Est-ce que c'est pas une dimension qui manque dans les relations franco-polonaises aujourd'hui, qui peut-être explique aussi ces tensions des derniers mois?
La francophonie à laquelle vous faites référence existait en Pologne depuis très longtemps, mais on a une image un peu idéalisée de cette présence culturelle. La connaissance de la langue française était historiquement liée à la noblesse ou à des classes plutôt aisées. Et c'était aussi une question de prestige social, pas seulement un instrument professionnel. Et après la Seconde Guerre mondiale l'homogénéisation ethnique et les pertes humaines, notamment de la noblesse et des intellectuels, cette francophonie a été un petit peu délaissée. Et après 89, on a rappelé aussi, quand on a parlé de l'OTAN, cette région embrasse les valeurs anglo-saxonnes, y compris culturellement. Et c'est vrai que la présence française, à partir de cette époque-là, commence à avoir un peu du mal à se maintenir dans la région. Parce que les modes de financement aussi de la culture ont évolué. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans les partenariats, dans les financements privés. Et c'est vrai que les acteurs culturels français ont plus l'habitude de s'appuyer sur l'État et sur sa diplomatie, qui aujourd'hui, en France, n'a pas autant de moyens que par le passé.
Et là, il y a des initiatives qui ont été prises par Emmanuel Macron. Il a fait des annonces. Non, on n'a rien entendu.
Non, on n'a rien entendu. Mais son discours, en fait, à l'université Jagellon de Cracovie, c'est une université un peu particulière, justement, parce qu'elle est dans une union d'universités européennes, qui s'appelle Luna Europa, notamment en partenariat avec l'université de la Sorbonne. Donc, il pourrait y avoir des coopérations scientifiques qui pourraient se développer éventuellement au sein de cette union.
Oui, les lieux sont jamais choisis complètement au hasard avec Emmanuel Macron. On parlait de climat il y a quelques instants. Je vous emmène dans une forêt qui est précisément au cœur d'un différend écologique avec l'Europe. Voilà, on est au cœur de la forêt de Białowieża. Alors si on peut pas la qualifier de forêt primaire, elle est quand même quelque chose qui s'approche d'une forêt primaire dans la mesure où l'impact des activités humaines sur son écosystème est extrêmement limité, au point qu'on y trouve même des bisons d'Europe, figurez-vous. C'est un espace de plus de 150 000 hectares à cheval sur la Biélorussie et la Pologne qui est protégé par un parc national classifié Natura 2000, qui est un réseau européen de sites naturels. Et pourtant, depuis plusieurs années, elle est régulièrement menacée d'exploitation forestière, notamment depuis l'accès au pouvoir du PiS. Le ministre de l'Environnement polonais y avait lancé un grand programme d'abattage au prétexte qu'un parasite menacerait la sécurité des visiteurs. S'en était suivie une lutte judiciaire avec l'Union européenne. Alors que révèle ce conflit du différend entre Varsovie et Bruxelles sur l'enjeu environnemental? On va essayer de le comprendre avec Adam Wajrak, qui est journaliste à Gazeta Wyborcza, qui est militant écologique. Il va commencer par nous expliquer en quoi la gestion de la forêt de Białowieża, telle qu'elle est menée aujourd'hui par le PiS, s'oppose au droit européen. Il est au micro de Bertie Bourdon.
It's a European law. It's telling that, you know, Natura 2000.
Le droit européen prévoit que Natura 2000 protège certaines espèces dans certains habitats. Il y a deux directives, la directive Habitat Natura 2000 et la directive Oiseau Natura 2000. La forêt de Białowieża est protégée au titre des deux directives européennes, Habitat et Oiseau. Et la Commission européenne et l'ONG polonaise ont montré très clairement que les coupes organisées dans la forêt de Białowieża étaient dangereuses pour la faune Natura 2000, comme le pitrie dactyle ou la chouette chevechette, ou encore certains insectes tels que les scarabées très rares et autres. La Commission européenne a alors envoyé un avertissement au gouvernement polonais, qui a répondu qu'il ne s'était rien passé, que tout était sous contrôle. La Commission européenne, soutenue par l'ONG polonaise, a alors porté l'affaire devant la Cour européenne de justice, qui, j'aimerais le souligner, a procédé en deux étapes. Et la première a consisté à immédiatement interdire les opérations de gestion forestière active dans la forêt de Białowieża. Cela remonte à l'automne 2017. La Cour a donc dit « Ne faites plus rien dans la forêt de Białowieża tant que nous n'aurons pas rendu notre arrêt définitif ». Le gouvernement polonais, complètement opposé à cet avis, a continué d'autoriser des coupes. La Cour européenne a alors envoyé un message au gouvernement polonais en indiquant que toute violation de cette interdiction serait passible d'une forte amende pour la Pologne, au moins 100 000 euros par jour, une grosse somme donc. Lorsque le gouvernement a reçu ce message avec la mention d'une forte amende, les activités ont enfin cessé. Puis, en 2018, la Cour a rendu son arrêt, en indiquant clairement que toutes les mesures prises par le gouvernement étaient illégales selon le droit européen. Il a donc été dit clairement que ces soi-disant luttes contre les scolytes et gestion forestière étaient complètement illégales et contrevenaient à deux directives européennes. Une histoire donc très importante et qui a eu des conséquences, car des éléments de l'affaire Białowieża font désormais jurisprudence, comme l'interdiction provisoire d'une activité. Voilà donc un peu l'histoire du point de vue juridique, une affaire qui a aussi montré que l'Europe est une communauté de valeurs. L'Europe, ce n'est pas seulement de l'argent, mais c'est aussi des valeurs, dont la protection de la nature.
Comment a été perçue cette affaire judiciaire entre le gouvernement polonais et la Commission européenne ?
Vous savez, cette affaire a été très importante pour la Commission européenne, mais aussi pour la société polonaise, qui s'est très fortement opposée aux abattages dans la forêt de Białowieża. Et tout ce qui s'est passé a bien montré par ailleurs que les valeurs de l'Union européenne ne se limitent pas à l'argent, aux subventions, aux droits humains ou à la justice, mais qu'elles portent aussi sur la protection de la nature. Et donc ça a été une grande leçon pour le peuple polonais, qui, grâce à cette affaire, aujourd'hui a plus foi dans l'Union européenne. Et puis, vous savez, l'opposition du gouvernement polonais vient avant tout du fait qu'il s'agissait d'un gouvernement très à droite et catholique, très conservateur. Je dirais même qu'ils appliquent la Bible au pied de la lettre et grosso modo, ils disent que la nature ne peut pas se gérer elle-même et qu'il doit toujours y avoir une intervention humaine. Raison donc pour laquelle ce gouvernement voulait couper des arbres dans la forêt de Białowieża. Il ne voulait pas que la forêt s'autogère. Alors, bien évidemment, c'est une grossière erreur. Parce que si vous voulez protéger la biodiversité de la forêt de Białowieża, si vous voulez y protéger la nature, la dernière chose à faire, c'est de la gérer.
Est-ce que cette gestion de la forêt de Białowieża menée depuis 2015 marque une rupture avec la politique conduite par les différents gouvernements polonais en matière d'environnement ?
Franchement, pour être honnête, à propos des politiques polonais, ils n'ont jamais vraiment fait attention à la protection de la nature. Et ils ont généralement autorisé les entreprises forestières à gérer la forêt comme elles le souhaitent et à y prélever ce que bon leur semble. Mais le PiS est allé encore plus loin. Ce qui s'est passé sous le gouvernement du PiS est encore pire que sous n'importe quel gouvernement précédent. Et le PiS a des principes du genre « si vous voyez des animaux, abattez-les » et « s'il y a une forêt, coupons et gérons ». Des idées du 19e siècle. Et je voudrais souligner que même si les gouvernements polonais n'ont jamais été hyper écolos, ni composés de gens merveilleux et brillants, le PiS a battu tous les records. C'est d'autant plus vrai pour la forêt de Białowieża. Chaque gouvernement avait amélioré la protection de la forêt de Białowieża en réduisant le nombre d'arbres pouvant être abattus, en créant de nouvelles réserves, etc. Et le gouvernement du PiS, surtout entre 2015 et 2018, a été le premier gouvernement à revenir complètement en arrière. Ils sont revenus très loin dans le temps en matière de protection. Ils ont fait volte-face par rapport à tous les gouvernements précédents depuis 1989. Je dirais même que le PiS a beau être très 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 à droite, il a recommencé à faire ce que faisaient les communistes dans l'exploitation de la forêt de Białowieża, c'est vous dire. Et cela a profondément choqué l'opinion publique polonaise, mais aussi l'opinion publique européenne, voire même mondiale. C'est pour cela que je pense qu'il y a eu une réaction aussi intense de la part de la société polonaise et de la Commission européenne.
Et justement, Adam Wajrak, les réactions ont été très fortes en Pologne. Lorsque les premiers arbres ont été abattus, des militants se sont mobilisés. Le village où vous vivez, Teremiski, est situé à quelques kilomètres de la forêt de Białowieża et il a accueilli des militants écologistes pendant l'hiver, en 2016 et en 2017. Ils ont organisé là-bas un Camp for the Forest, autogéré pour lutter contre l'exploitation de la forêt. Qui étaient ces militants ?
You know, they were mainly Polish, but they were mainly young people, activists who stopped the harvesters.
Ce sont essentiellement des Polonais, des jeunes militants polonais qui ont stoppé les abatteuses tronçonneuses. C'était d'énormes machines envoyées par le gouvernement pour abattre les arbres. Et non seulement elles abattaient des arbres, mais elles détruisaient aussi tout sur leur passage, c'était incroyable. De telles machines n'étaient jamais entrées dans la forêt de Białowieża. Et les militants les ont arrêtées. Les militants étaient donc surtout des jeunes et en majorité polonais. Mais il y avait également beaucoup d'autres Européens, venus d'Allemagne, d'Espagne, de France, pas mal de République tchèque aussi. Et il y a même eu des nationalités non européennes, comme des Australiens. Cette action a mobilisé un grand soutien international.
Et est-ce que derrière ces mobilisations écologistes, il y a aussi une contestation plus générale de la politique menée par le PiS ?
Vous savez, je pense que cela fait partie de la mobilisation générale. Souvent, ce sont les mêmes qui protestent contre des modifications de la loi ou du système judiciaire qui protestent aussi contre la destruction de la nature. Parce que nous pensons que toutes ces choses sont très liées. Mais il y a eu aussi beaucoup de gens que cette politique de destruction de la nature a particulièrement touchés. On s'attaquait à nos trésors. Białowieża fait vraiment partie de l'identité polonaise. C'est un symbole pour les Polonais. Nous n'avons pas un grand patrimoine comme des châteaux, des vieilles églises ou des vieilles villes en Pologne, parce que la Pologne a été en grande partie détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais en revanche, nous avons une nature merveilleuse. Et lorsque le PiS a touché à ce patrimoine, notre patrimoine, cela a vraiment mis les Polonais en colère.
À la recherche des dernières capitales, à leurs caresses de métal. Quand tu descends du train, tu t'exclames. Tu ne reconnais pas leur visage. Plus loin vers l'est, d'ouest en est. Plus loin vers l'est, toujours plus loin. Sans retour.
Voilà, merci à Adam Vajrak qui était avec nous par téléphone au micro de Bertille Bourdon qui est journaliste à Gazeta Wyborcza, militant écologiste. Et puis un grand merci à nos deux invités ici en plateau. Amélie Zima, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes enseignante en sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et rattachée au CERSEC de la HESS. Roman Krakowski, merci d'avoir été avec nous également. Je rappelle que vous êtes vous enseignant à l'université de Genève et puis auteur de cet ouvrage, Le populisme en Europe centrale et orientale, un avertissement pour le monde, point d'interrogation, qui était paru chez Fayard. Merci à tous les deux.
Merci.
Plus loin vers l'est, d'ouest en est, plus loin vers l'est, toujours plus loin, sans retour.
Onze heures, presque 53 minutes, l'heure de retrouver Brice Couturier et le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors Brice, vous nous parliez hier d'un livre récemment paru consacré au biais de négativité. Aujourd'hui, parlez-nous du bonheur, Brice.
Eh oui, il s'agit de l'essai de John Tierney et Roy Baumeister qui s'appelle The Power of Bad, consacré au fameux biais de négativité et aux meilleurs moyens de le surmonter, par conséquent d'accéder au bonheur, malgré notre prédisposition naturelle et innée à préférer les mauvaises nouvelles aux bonnes. Alors je découvre dans le numéro de la revue Sciences Humaines qui vient de paraître la parution d'un dictionnaire historique et critique du bonheur, figurez-vous, paru aux éditions du CNRS sous la direction de Michel Galli. Je n'ai pas eu l'occasion de lire cet ouvrage, mais de l'article qui lui est consacré dans la revue en question, il ressort deux idées fondamentales. Un, c'est la différence entre notre conception moderne du bonheur et celle qui avait cours dans l'Antiquité d'une part, et puis d'autre part, l'opposition entre celle des libéraux et celle des socialistes. Alors commençons par la première. Les Grecs et leurs disciples latins, parce qu'ils croyaient en l'harmonie naturelle du cosmos, voyaient la recette du bonheur dans le fait de vivre conformément à la nature, ce qu'ils identifiaient plus ou moins à la vertu. Pour les épicuriens, le bonheur était affaire de discipline et de raison. Il consistait tout simplement à écarter les troubles qui peuvent venir troubler notre sérénité. Mais lorsque Saint-Just déclare, durant la Révolution, que le bonheur est une idée neuve en Europe, il a en vue tout autre chose. Sa fameuse proclamation fait écho en effet à la déclaration d'indépendance des États-Unis qui, en 1776, proclamait, je cite, « Nous tenons ces vérités pour évidentes, que tous les hommes sont créés égaux, qu'ils sont investis par leur créateur d'un certain nombre de droits inaliénables et que ces droits sont la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. » Le droit au bonheur, ou du moins à sa poursuite, faisait désormais partie des droits de l'homme et il n'avait plus grand-chose à voir avec l'ataraxie des Grecs. C'était devenu un mouvement dynamique, une quête presque nécessairement déçue et non pas une soumission raisonnable à l'ordre des choses. Dans la tradition libérale, illustrée par Benjamin Constant, je cite « Les hommes n'ont besoin pour être heureux que d'être laissés dans une indépendance parfaite sur tout ce qui a rapport à leurs occupations, à leurs entreprises, à leur sphère d'activité, à leur fantaisie. » Ce que Madame de Staël a résumé d'une seule phrase, « Il faut se proposer pour but le bonheur et pour moyen la liberté. »
Mais Brice, les critiques du libéralisme ne tardèrent pas à juger cette conception du bonheur individualiste, égoïste, voire même antisociale.
Et oui, c'est pourquoi John Stuart Mill défend le libéralisme par la gauche, à travers une philosophie qui vise au bonheur général, à travers le développement par chacun des membres de la société de ses propres capacités en vue de ses propres intérêts. Et c'est le chemin qui mène à la philosophie contemporaine d'Amartya Sen. Mais il est une autre opposition que suggère l'auteur de l'article Thierry Jobard lorsqu'il souligne le sens étymologique du mot « bonheur ». Le « bon heur », c'est en effet ce qui provient par accident, par hasard, une chance qui nous tombe dessus. Mais le mot s'inscrit aussi pour les philosophes dans un horizon moral. Il renvoie alors aux fins de l'existence. Aristote a écrit « une hirondelle ne fait pas le printemps » et ainsi « la félicité » et le bonheur ne sont pas l'œuvre d'une seule journée ni d'un bref espace de temps. Eh bien, c'est exactement ce qu'avait en vue Roy Baumeister, l'un donc des deux co-auteurs de The Power of Bad, lorsqu'il a organisé une expérience de psychologie sociale dont il rend compte sur le site Aeon. Il s'agit d'une étude menée auprès de 400 personnes auxquelles son équipe a demandé d'estimer deux choses. Estimez-vous que votre vie est heureuse et dans quelle mesure estimez-vous qu'elle a un sens? Ce qui l'a amené à opérer ces distinctions utiles. D'abord, la satisfaction des désirs provoque du bien-être et donc une forme de bonheur. Mais cela n'a rien à voir avec le sens, ce n'est pas « meaningful ». Le dernier homme nietzschéen est heureux au fond de son néant spirituel. La bonne santé contribue au bonheur, mais la vie des gens malades, aveugles ou paralysés n'est certainement pas dépourvue de sens. C'est surtout l'échelle temporelle qui permet de distinguer les deux catégories. Le bonheur concerne le présent, ce qui fait sens, ce sont certaines manières de relier le passé au futur, écrit-il. Je citerai également l'écrivain polonais Gustav Herling-Rudzinski qui a écrit « Il fallait pourtant qu'il existât au monde un endroit d'où, arrivé au bout du chemin, on pouvait voir sa vie autrement, non comme un tourbillon insensé, mais comme une voie menant quelque part vers quelque chose. Mais c'est dans la vie sociale, écrit Baumeister, que l'écart dans les réponses des participants est le plus évident. Le départ en retraite est souvent source de bonheur, disent-ils, mais il est aussi source d'une perte de sens. Et comme l'écrit notre psychologue, si le bonheur concerne ce que vous désirez, il apparaît que ce qui donne du sens, c'est ce par quoi vous vous exprimez.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique sur le bonheur qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.